Conférence numéro 39.
Alors, le texte que je suis en train de lire avec vous, la deuxième aux Corinthiens, les premiers chapitres, m'embarrasse énormément, et plus ça va, plus il m'embarrasse, pour vous le cacher. Non pas parce que je ne sais pas quoi dire, mais au contraire parce que j'ai l'impression que j'aurais vraiment trop à dire. Je suis un peu comme engorgé par l'accumulation des thèmes qui s'entrecroisent à propos de l'exubérance paulinienne elle-même, d'ailleurs. Je m'aperçois que ces textes, je les ai lus une première fois assez attentivement quand j'avais 30 ans, ou à peu près, aux études dominicaines que je faisais, et naturellement à l'occasion de la liturgie, à l'occasion de... Enfin, telle ou telle occasion, j'en ai toujours relu un petit bout, de temps en temps. Ils ne m'ont jamais complètement abandonné, et ils ont fait leur chemin. Ils ont fait leur chemin avec d'autres textes, en s'entrecroisant avec toutes sortes d'autres choses que j'ai lues, et qui ont été peut-être plus présentes à mon esprit, explicitement, que les textes de saint Paul. Pourquoi ? Parce que j'étais un homme de bataille, je suis peut-être encore d'ailleurs, c'est un tempérament chez moi, j'ai mené des batailles, j'ai mené la bataille de saint Thomas contre les dominicains, j'ai mené la bataille de Thérèse de l'Enfant Jésus contre les intellectuels. Alors j'ai pensé surtout à Thérèse de l'Enfant Jésus, à saint Thomas d'Aquin, à saint Jean de la Croix, à Thérèse d'Avila, enfin à ceux qui ne s'imposaient pas. Alors ce que j'ai dit, je l'ai dit surtout au début, au nom de ces gens que j'énumère et de quelques autres peut-être. Mais en fait, tout ce que je disais était considérablement imprégné de ce que je continuais toujours à entendre dans la liturgie ou dans telle ou telle occasion de lecture, tout de même, des épîtres aux Corinthiens en particulier. De sorte que je m'aperçois aujourd'hui qu'après avoir élaboré pendant des années péniblement une espèce de synthèse doctrinale qui tourne maintenant autour de la gloire, je tombe comme sans l'avoir fait exprès, sur des textes qui concernent la gloire. Presque constamment, et en particulier cette deuxième aux Corinthiens. Alors je suis bien embarrassé. Je suis bien embarrassé parce que ça marche trop bien. La mariée est vraiment trop belle. J'en demandais pas tant. Parce que s'il valait vraiment vous offrir le commentaire complet de ce texte tel que je l'ai élaboré sans m'en douter pour mon propre compte depuis 10 ans, il faudrait abandonner le texte et puis faire un cours de théologie spirituelle très long qui reprendrait la substance de tous les cahiers que j'ai sortis et de celui qui va sortir, en particulier, surtout de celui qui va sortir. Alors, je ne peux pas faire ça, je peux tout de même pas passer outre comme si... alors, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu... voilà, je fais des allusions... Mais comme m'a dit l'un d'entre vous, vous êtes imprégné de ça depuis 6 mois, vous faites des allusions qui sont claires pour vous et auxquelles les gens ne comprennent rien. Bon, je me dis, alors, ça va, je suis dans la ligne de ce qu'était saint Paul pour moi il y a 15 ans, parce que j'y comprenais rien. C'est une consolation. Enfin, substituer à un texte inintelligible de saint Paul, ou peu intelligible de saint Paul, un texte peu intelligible du père Molinier, ça, je vois pas bien le progrès, mais enfin... Alors, vous m'excuserez, je vous fais part très simplement de mon embarras, je n'ai pas trouvé la solution, je vais tout de même être obligé de vous dire des choses. La solution, je l'entrevois, mais c'est un peu prématuré. Si ce texte venait dans 6 mois, j'espère que j'aurai eu le temps de laisser se décanter tout ça, de façon à pouvoir peut-être en parler de manière plus simple, plus assimilable, parce que c'est extrêmement déroutant à bien des égards. Le texte de Paul est déroutant. Alors j'essaie de me réduire de réduire tout ça à sa plus simple expression, mais c'est pas toujours facile. Alors, je voulais justement la dernière fois déjà vous lire une note qui m'a beaucoup impressionné dans cette perspective que je viens de vous évoquer, parce que, encore une fois, ça recoupe trop bien ce que j'ai essayé de dire par ailleurs. Alors cette note, j'avais commencé à vous la lire, mais je vais achevé cette lecture. C'est donc une note du commentateur, le père Spic, de la deuxième aux Corinthiens, dans l'édition que j'ai là. La conception paulinienne. Donc, il s'agit de... Je reprends le texte de Paul pour vous mettre tous au courant, dans le cas où certains eussent été absents. Si le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres, est devenu une telle source de gloire, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas y échapper, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire qui sortait, ruisselait de son visage. Gloire abolie aujourd'hui. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas une source de gloire ? Si en effet le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, ou de la justification, ou de la sanctification, ou du salut, le surpasse bien davantage en gloire. Aussi bien ce qui fut glorieux de cette manière partielle, c'est-à-dire propre aux Juifs, cesse de l'être devant cette gloire suréminente de l'Évangile. Si en effet ce qui est aboli fut revêtu de gloire, combien plus ce qui est permanent sera-t-il source de gloire ? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une pleine assurance et pas comme Moïse, qui voilait son visage pour que les fils d'Israël ne vissent pas le paroxysme de ce qui devait être aboli, de cette gloire qui devait être abolie. Mais leur intelligence s'est sclérosée. Jusqu'à ce jour, en effet, le même voile demeure sur la lecture de l'Ancienne Alliance, sans qu'il leur soit dévoilé que cette Ancienne Alliance a été accomplie et, par conséquent, dissoute en un sens, par le Christ. Aussi bien, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. En revanche, dès qu'on se tourne vers le Seigneur, le voile tombe. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De sorte que nous, qui le visage sans voile, et alors c'est encore une autre idée qui va passer maintenant, c'est-à-dire que nous allons devenir comme Moïse, et à beaucoup plus juste titre, et sans nous voiler le visage. Ce qui peut paraître assez étonnant, n'est-ce pas, parce que je croirai à leur sauveur quand ils auront l'air un peu plus sauvés. Bon, nous y reviendrons. Mais ça va vous montrer que ces textes sont difficiles. Quant à nous, qui le visage sans voile, reflétons tous, comme un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, selon l'action du Seigneur qui est esprit. Voilà. C'est sur ce texte, donc, que le commentateur dit « La conception paulinienne peut être en partie dépendante des apocryphes juifs de l'Ancien Testament. » C'est-à-dire des livres qui n'ont pas été reconnus comme totalement inspiré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien du Saint-Esprit dedans, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas garantis, ni par la tradition juive, ni par la tradition chrétienne, comme tout entier, protégé par le Saint-Esprit, en quelque sorte, contre les corruptions de la pensée humaine. Les corruptions venant de la pensée humaine. Donc, ces apocryphes juifs ne sont pas sans intérêt, pas plus que les apocryphes chrétiens. Il faut faire attention, c'est pas garanti, mais il peut y avoir des choses intéressantes dedans. Alors, ces apocryphes représentaient l'état de justice originelle du premier homme sous la forme sensible d'une gloire. Le vêtement de justice, perdu par le péché, est rendu aux chrétiens d'une manière spirituelle et non plus symbolique. Et alors, voilà un résumé de cette tradition antique. Adam et Ève, avant le péché, avaient une gloire. D'après l'Assomption de Moïse, c'est une émanation, qui est un livre apocryphe alors, de l'Ancien Testament, l'Assomption de Moïse, hein, vous notez bien. C'est une émanation de la gloire divine. Elle enveloppe leur corps et leur tient lieu de vêtements. Et c'est en prenant conscience de leur nudité qu'ils constatent la perte de cette gloire. Vous voyez, c'est plutôt, moi je dirais, en constatant la perte de cette gloire, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de la remplacer par des vêtements. Ils ne sont plus revêtus de gloire, alors ils vont se revêtir de peau de bique. Ben oui, c'est ça. C'est la nécessité, ce serait d'ailleurs très, c'est très profond, la nécessité de se vêtir et la nécessité de la pudeur est un aveu permanent que nous avons perdu la gloire, que nous ne sommes plus vêtus de gloire, que nous sommes sales. Mais nous sommes foncièrement sales. Et la pudeur, le sentiment, moi je crois que c'est métaphysiquement très profond. Le sentiment de la pudeur, c'est le sentiment que nous sommes sales. Nous ne sommes pas beaux à voir nus. Pourquoi ? Ben parce que nous ne sommes plus vêtus de gloire. Nous devrions l'être. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Et bon, alors, d'après une tradition rabbinique, l'homme avait été créé rayonnant de splendeur. Voilà. Vous voyez ? Cette splendeur perdue par le péché devait lui être rendue par le Messie. Ben, je vous assure que si vous aviez lu ce que j'ai écrit avant de lire ces lignes, il a copié chez les Juifs. Alors, il y a une légende juive qui grossit ça un petit peu. Hein. Bon, alors, mais enfin, ça montre bien la permanence de l'idée à travers une enveloppe grossière. Alors là, c'est le cas de dire, là, ça ne va plus être tout à fait la gloire. D'après une légende juive, le corps des premiers parents avait été couvert d'une peau de corne. Alors là, bon, d'une part, et enveloppé de la nuée de gloire. Bon, alors la peau de corne, ben, je crois que c'est, je pense que l'une et l'autre d'ailleurs disparurent avec le péché. Bon. Mais cette gloire est une des six choses précieuses qu'Adam et Ève perdirent dans l'épreuve du paradis terrestre. Hein? Voilà. Et alors, dit l'Assomption de Moïse, cette Assomption matérielle n'est pas dépourvue de portée symbolique. Cette représentation matérielle de la gloire a une portée symbolique. Elle représente la justice, elle représente la... Quoi ? Ben, elle représente la continuité avec la gloire de Dieu, c'est-à-dire la vision face à face. Alors c'est là qu'intervient la réflexion théologique que j'ai essayé de faire, d'abord, en effet, au sujet de nos premiers parents. Ils avaient été sur le point de basculer dans la vision face à face. Ils ont été au bord. Et si vous voulez, je comparerai leur situation, justement, à celle de l'aurore. Juste avant que le soleil n'éclate. Quand le soleil arrive, alors c'est la vision. Bon, ben quand le soleil est loin, c'est la nuit avec peut-être quelques faibles lueurs. Mais eux, ils ont été tout près de l'explosion du soleil. Alors ils étaient tout de même revêtus de gloire, un peu comme la nature, un peu avant le lever du soleil, ou juste après le coucher du soleil. Il y a une espèce de gloire qui couvre la nature. Eh bien c'est cette gloire-là qui couvrait le corps et l'âme de nos premiers parents. Voyez. Et alors, ça, ils l'ont perdu. Parce qu'ils n'ont pas su. Et ils l'ont perdu en quoi faisant ? Mais justement, en ne sachant pas aller jusqu'au bout de la gloire. Cette gloire, ces débuts de gloire, cette amorce de glorification qui leur était offerte, c'est comme un processus qui a commencé à s'emparer d'eux. Imaginez que vous vous sentiez soulevé de terre un peu, pas encore au point de décoller, mais il y a une force qui vous porte à partir, et qu'une voix vous dit du dedans en même temps, veux-tu, mais alors on vous explique, on vous lit le code, comme on dit, n'est-ce pas ? On vous explique la règle du jeu. Alors je n'entre pas dans les détails de cette règle du jeu, alors là, pour faire ça, il faudrait que je ferme le livre et que nous fassions la théologie d'Adam et Ève. Qui m'avait arrêté quand j'ai commencé cette série biblique ? Une de mes grandes difficultés a été de me dire, mais je ne peux pas parler d'Adam et Ève, c'est trop profond, c'est trop long, je ne suis pas prêt. Maintenant, je pourrais, je crois. Bon, ça ne veut pas dire que je sais, mais là, j'ai quelque chose à dire, quoi. Enfin, je pourrais. Mais là, je n'ai pas pu, c'est pour ça que j'ai commencé à Abraham, après avoir volté légèrement du côté de comme la colombe, au-dessus des eaux du déluge, du côté de Noé, un petit peu Abel et Caïn, enfin, je ne me suis pas trop attardé de ce côté-là, parce que je sentais de tels abîmes que je ne pouvais pas affronter ça. C'était trop. Pas plus que l'Évangile. L'Évangile, alors, je disais bien, je ne peux pas. Alors là, l'Évangile, ça vient, j'approche. Je pressens que maintenant, je pourrais peut-être bientôt, justement parce que j'entrevois que l'Évangile, c'était les fissures de la gloire, toujours cette notion de la gloire étant la clé de tout. Alors là, je pourrais peut-être, oui, parler de l'Évangile. Un peu. Progressivement. Et donc, je ne pouvais pas parler d'Adam et Ève. Maintenant, je pourrais, mais ce serait très très long. Enfin, ce serait une véritable théologie. En particulier, il faudrait vous expliquer quelle était cette règle du jeu, pourquoi elle comportait une épreuve, pourquoi ça n'a pas marché. alors qu'Adam et Ève étaient bien plus sains que vous et moi. Hein, faut pas s'y tromper. Mais avec beaucoup moins de mérite que vous et moi. Je mets les choses en place. Le peu de non-péché que nous avons acquis, n'est-ce pas ? Le peu de lutte contre le péché que nous avons, il ne l'avait pas mérité, il n'avait qu'un seul mérite à acquérir, un seul choix à faire, une seule tentation à surmonter. Il n'avait surmonté encore aucune tentation. Il n'avait pas résisté jusqu'au sang. Il n'avait même pas résisté jusqu'aux larmes. Ils avaient résisté jusqu'à rien du tout. Ils avaient résisté à rien du tout parce qu'il n'y avait pas d'épreuve, il n'y avait pas de problème. Nous avons quand même déjà eu des épreuves, nous avons quand même déjà eu des problèmes. Nous avons peut-être déjà eu à dire oui, alors que ce n'était pas très drôle, très, très facile. Donc nous sommes, à ce point de vue-là, plus avancés qu'eux. Vous voyez ? Mais par contre, au point de vue de l'innocence, du caractère absolument intact des forces destinées à dire oui à Dieu, ben, ils étaient en bien meilleure position que nous. Et ils avaient cette gloire, cette amorce du processus de glorification qui faisait partie de l'épreuve. Il fallait que le processus se fût amorcé pour que l'épreuve puisse jouer par la question de savoir comment s'achèverait le mouvement. Et alors c'est le mystère du fruit. Est-ce que l'homme va par lui-même s'emparer de cette gloire qu'il entrevoit, comme s'il espérait pouvoir faire dégringoler le soleil sur la terre parce qu'il le voit arriver? Est-ce qu'il va essayer de le capter ou est-ce qu'il va se laisser capter par le soleil? Voilà tout le problème. Bon, ben, il a été résolu, comme vous savez, et il en est résulté des tas de choses. Mais alors, d'abord et avant tout, et très simplement, la perte de la gloire. Ça veut dire que le processus de glorification n'a pas été amorcé. Or, je me trouve devant une difficulté dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Tout nous assure que dès le soir même de la chute, Dieu a pardonné à l'homme. Il lui a pardonné en vertu des mérites du Christ, bien sûr, que Dieu avait présent secrètement devant les yeux, avant même le péché. Alors, donc de ce point de vue-là, Dieu a pardonné à l'homme aussitôt, il lui a offert de nouveau le salut aussitôt, il lui a offert tout ce qu'on voudra aussitôt. Tout ce qu'on voudra, sauf la gloire. Voilà tout de même la différence que je maintiens. Il lui a rendu son amitié, il ne lui a pas rendu la gloire. Et il ne lui a pas rendu ce processus de glorification tel que l'homme aurait pu, s'il l'avait laissé faire, ce processus de glorification, s'il s'était laissé faire, s'il s'était laissé emporter et brûler par cette aurore radieuse, eh bien l'homme serait parti comme ça. Nous y reviendrons sur cette métamorphose. C'est le mystère fascinant par excellence. Tant que vous n'aurez pas eu, par votre prière, par vos méditations, par un don de Dieu, le pressentiment de ce que je veux dire par là, ben, il est évident que tout ce que je vous dirai sera très difficile à comprendre. Alors là, moi, je ne peux pas remplacer ça. Ça, c'est pas intellectuel. Vous voyez, que chacun prenne les moyens qui veut. Il y en a, c'est la poésie, et c'est très authentique. Toute la théologie orientale, toute la spiritualité orientale, et s'appuie, je dirais presque, sur le printemps de Pâques, le printemps des fleurs. Les fleurs, ils sentent que c'est la résurrection qui arrive, ils sentent que c'est la gloire. Vous voyez, et dans le si le grain ne meurt, ben, ils sentent que, voilà, il y a quelque chose qui. Il y a une force qui passe. Et dans Teilhard, il y a de ça aussi, d'ailleurs. Le fait que quelque chose d'immense, mais d'insoutenable, peut-être, mais nous arrive dessus. Teilhard est mort le jour de Pâques, enfin. Vous voyez, je lui fais crédit que peut-être c'était ça qui le fascinait. Dans tous les cas, moi, je ne peux pas vous transmettre ce truc-là. Enfin, je ne peux pas. Et alors là, si vous voulez des renseignements, selon les tempéraments, ça peut varier. Mais enfin, il y en a certains, je vous dirais, lisez Saint Jean de la Croix. D'autres, je dirais, lisez Thérèse d'Avila. D'autres, je dirais, lisez Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais lisez-la bien, parce que vous verrez qu'il n'est question que de ça. Que d'un bout à l'autre, elle sent arriver cette affaire-là, et qu'elle la désire, et qu'elle la demande. Moi, je parle dans le vide, si je ne rencontre aucun pressentiment concret de ce truc-là chez vous. Dans le désert, c'est le cas de dire. Que vous en ayez peur, tant que vous voudrez, c'est un signe que vous comprenez de quoi il s'agit. Non pas peur de ce que je dis, non pas peur des mots que j'emploie, mais peur de la réalité. Si vous avez peur de la réalité, bon, ça va, c'est parti, ça va, on veut s'entendre, c'est d'accord, on va parler. Vous voyez ? Que vous en ayez le désir, alors là, je me méfierais davantage. Je vous dirais, vous comprenez ? Je dirais, alors là, attention à l'imagination et à la poésie, peut-être que, voilà. Mais enfin, normalement, quelqu'un qui est dans l'axe, il a à la fois le désir et la peur. Faut qu'il y ait un peu les deux. Quoi. Que voulez-vous ? Et alors, attention, je me tue à répéter ça depuis des années, mais c'est pas. Je vous parle pas de la croix pour le moment, je vous parle pas des souffrances, je vous parle pas de la mort douloureuse qui peut faire peur, je parle pas de tout ça. Non, je parle de la gloire. Il faut la pressentir suffisamment pour en avoir à la fois le désir et la peur. Moi, je ne peux pas remplacer ce truc. Comme je ne parle que de ça, comme Saint-Paul ne parle que de ça, comme Thérèse de Lisieux ne parle que de ça, comme l'Église ne parle que de ça, vous voulez, moi, demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Moi, je ne peux pas. Je me sens très désarmé par ce fait que, précisément, un peu peut-être par la faute d'une certaine prédication, que j'appellerais la prédication de Saint-Jean-Baptiste, et qui... sera une prédication éducative, enfin je parle en principe à des adultes. Vous avez affaire à des enfants, vous savez très bien que c'est Dieu qui donne cette étincelle dont parle Thérèse d'Avila, sans laquelle s'il n'y a pas les épices de la gloire qui nous attirent, les jeunes filles ne courront pas derrière ton parfum, dit le cantique des cantiques, enfin quelque chose de ce genre. Bon, alors, l'Église, il y a un aspect pédagogique et éducatif. Bon, il faut apprendre aux enfants à être purs, à être droits, à pratiquer la morale chrétienne, et ça viendra. Eh bien, naturellement, oui, bien sûr, ça, il y a guère autre chose à faire. Mais, imaginez, enfin, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui voudrait faire un bon poulet et qui n'oublie qu'une seule chose, c'est de le faire manger. Ah bon, le poulet, c'est bien... les règles de la cuisine, est-ce que c'est bien conforme aux recettes du livre de cuisine? Oui, mais enfin, c'est fait pour être bon, quand même, et pour être mangé. Donc, l'éducation chrétienne, c'est pas fait pour l'éducation chrétienne en elle-même, c'est pas fait pour la morale. La morale n'est pas faite pour la morale. C'est comme si on faisait la cuisine pour faire la cuisine. La cuisine, c'est fait pour qu'on mange. La morale, c'est fait pour qu'on mange, qu'on ait faim, qu'on ait soif de cette gloire. C'est fait pour la gloire, pour que la gloire vienne, pour que l'étincelle surgisse, jaillisse dans le cœur de l'enfant un jour. Généralement, ça vient très vite si on sait s'y prendre, ça vient dès 6-7 ans. Et puis alors, il y a une crise d'étouffoir, d'étouffement, qui est complètement une belle crise, bonne crise. Mais qu'est-ce que signifie cette crise chez un enfant qui n'a rien eu à 6 ans? Alors, vous avez de la veine, si Dieu vous le rattrape, cet enfant-là. Pas normal, vous savez. Dans une famille chrétienne, normalement, ça doit venir à 6 ans. Le pressentiment de la gloire. Et puis ça doit être oublié complètement à 12 ans, tant que vous voudrez. Avec les avions, les fusées, tous les trucs, on oublie la grande fusée éternelle. Bon, très bien. Mais si la trace a été mise dans le cœur de l'enfant, ça ne va pas s'en aller comme ça. C'est obstiné, la gloire. Si elle n'a pas été mise, ben, priez. Mais je pense d'ailleurs que, puisque Dieu aime les détresses, ça fait partie des choses que... la détresse, que ça n'ait pas été mis, obtiendra peut-être beaucoup de la part du cœur de Dieu. Mais enfin, ça le mérite. Hein. Bon, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé à 6 ans, et si c'est revenu depuis, mais il y a intérêt. Parce que moi, je ne peux rien si ça ne revient pas. Et je cause, et je cause, et je cause. Vous comprenez, vous avez... Alors c'est très intéressant, oui, en effet, c'est très intéressant. Mais ça n'arrose pas. Voyez. Donc nos premiers parents... Oui, ce que je vous disais, c'est que cette gloire... il faut apprendre à distinguer. Voilà, ça... C'était... Je suis désespéré, doctrinalement. Je suis désespéré parce que, à supposer que vous présentiez la gloire, ce sera difficile de vous expliquer ce que je veux vous dire. Alors si vous ne présentez pas, c'est même pas la peine que j'essaie. Bon. Supposez que vous présentiez la gloire, ce sera difficile de vous faire comprendre qu'il y a trois choses, alors que jusqu'à présent, je pensais encore qu'il n'y en avait que deux. Et je trouvais que c'était difficile de vous apprendre à ne pas les confondre. Mais alors, s'il faut en distinguer trois, alors je ne sais plus comment je rends mon tablier à Dieu, moi, comme Moïse, justement. Vous faites faire le boulot par qui vous voulez, moi, je ne sais pas comment faire. Hein. Il faut distinguer trois choses. Et je vous dis, autrefois, j'en distinguais deux. Je distinguais la nature et la grâce. Je distinguais aimer Dieu par-dessus toute chose, et puis aimer Dieu surnaturellement. Hein, vous vous rendez compte, ça a l'air déjà calé de comprendre ce truc-là. Bon, essayons quand même, parce que c'est le béaba, c'est le lait, puis je vais essayer après de donner de la viande. Bon, aimer Dieu par-dessus toute chose, ben c'est la morale. C'est la morale, récemment on m'a demandé, mais enfin la morale naturelle, là, puisqu'il y a une morale naturelle, vous dites qu'il y a une morale naturelle, mais qu'est-ce que c'est cette morale naturelle? Ben finalement c'est d'aimer tous les hommes, mais comme frères, et par conséquent d'aimer Dieu comme père. Mais naturellement, sans révélation, sans vitrinitaire, sans feu, sans élévation, non, simplement, aimer la volonté de Dieu, premier servi, quoi. C'est naturel. Les musulmans peuvent très bien comprendre ça, même s'ils n'ont pas la grâce. Théoriquement, tout au moins. Théoriquement, un musulman peut comprendre ça. Un hindou, bien sûr, s'il a un certain sens que Dieu est quelqu'un, ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, n'importe quel païen, n'importe quel brave homme peut comprendre ça, sans avoir pour autant, sans être initié à l'intimité trinitaire avec Dieu. Ça, c'est un autre étage de la fusée, c'est une autre étape. Bon, alors j'essaie de vous faire comprendre, mais ça fait... Là, j'en ai l'habitude, j'ai l'entraînement de ce côté-là, d'essayer d'expliquer ça, j'en ai même mon compte, quoi, aussi, là. J'ai passé mon temps à ça. Et est-ce fait? L'ai-je fait entendre que c'est pas la même chose d'aimer Dieu plus que soi-même, et puis d'être brûlé par l'amour dont Dieu s'aime? Ah, ça, c'est autre chose. Et être brûlé par l'amour dont Dieu s'aime. Être brûlé par ce qui se passe entre le Père et le Fils. Être touché par en haut, par le doigt de Dieu. Bon, c'est d'autres choses. Et ça s'appelle la grâce. Bien. Eh bien, voilà que cette histoire de nos premiers parents et les textes de Paul et toutes sortes d'autres choses dont je ne peux pas vous parler en ce soir à la fois m'oblige à dire que c'est encore beaucoup trop simple ce que je viens de vous dire là. C'est trop facile. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oh ben alors, je distingue donc, d'une part, aimer Dieu, aimer le prochain comme soi-même et Dieu plus que soi par-dessus toute chose, et puis aimer Dieu d'une manière surnaturelle, trinitaire, bon. Mais à l'intérieur de cet amour surnaturel de Dieu, je distingue encore être emporté, être invité, être introduit, voilà le mot, être introduit dans l'intimité trinitaire de Dieu, disons, sans que ça brûle, et être introduit dans l'intimité trinitaire de Dieu en telle sorte que ça brûle, c'est clair? Ça, c'est clair, l'image est claire quand même. Hein? Le père de haut, qui m'avait signalé cette image, mais sans me donner la clé doctrinale, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, alors, il avait une comparaison très simple, et à propos des armes qui font oraison, entre celles qui ronronnent au coin du feu, et puis celles qui sont dans le feu. Alors, il disait, les petits chats sont très contents de ronronner au coin du feu, ça va très bien tant que la distance reste respectable. Vous voyez? Et tant que... il n'y a pas d'autre, la chaleur est agréable tant qu'elle ne brûle pas. Alors tant qu'elle ne brûle pas, on demande une chose, c'est qu'elle augmente. Et puis il y a un moment où... Ah! Il se passe autre chose. Et ce moment-là, c'est la gloire. Voilà la distinction que j'ai établie. Et c'est justement parce que ce moment où ça se met à brûler devient et est vraiment dangereux pour la pauvre nature humaine, c'est justement pour ça que Dieu avait donné à nos premiers parents un mode d'emploi, des consignes de sécurité à employer en cas d'incendie. Ne jamais utiliser l'ascenseur en cas d'incendie. C'est curieux comme on trouve ça partout. Je me dis vraiment comme si on a le temps, enfin bon. Mais, mais c'est un petit peu ça. Ce fruit défendu, c'était l'ascenseur. Mais à ne pas utiliser en cas d'incendie. Renoncer. Là, je n'ai pas le temps de vous parler du renoncement. C'est un peu une des énormes clés de toute cette histoire-là. Mais je voudrais simplement vous dire, il y a une phase où l'intimité avec Dieu ne pose pas de problème. Et puis il y a une phase où l'intimité avec Dieu pose un gros problème, qui est le problème de nos premiers parents. Et c'est la phase de la gloire, c'est la phase de la glorification, c'est-à-dire la phase de la métamorphose. Et alors là, je vais insister là-dessus parce que c'est tout de même dans la première aux Corinthiens, et je l'ai lu avec vous, et puis j'ai pas fait attention. Entendons-nous. Évidemment, j'avais en arrière-plan quand même déjà un peu tout ce que je vous dis, mais je n'ai pas fait attention que ça pouvait me servir de pédagogie. Une simple phrase aussi bête que celle-là, que vous trouvez textuellement dans le chapitre 15 de la première aux Corinthiens, je ne sais plus le verset, peu importe, « Nous ne mourrons pas tous. » Non mais dites, vous rendez compte? Vous n'avez jamais fait attention à cette phrase-là, c'est quand même un peu énorme. « Nous ne mourrons pas tous. » C'est un drôle de truc, ça, alors. Je me rappelle, on nous racontait l'histoire du prédicateur de Louis XIV, n'est-ce pas, qui, devant le roi à la cour, disait « Mes frères, nous mourrons tous. » Le roi fronçait les sourcils et le prédicateur s'empressait d'ajouter « Enfin, ou presque tous. Enfin, » n'est-ce pas? Alors, on trouvait ça très drôle parce qu'on disait « Voilà où en sont les rois, n'est-ce pas? Il faut les caresser de l'espoir qu'ils ne mourront pas. » Oh, il y a cette phrase textuelle dans sa parole « Nous ne mourrons pas tous. » Si tous les espoirs vous ont permis. N'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quelques-uns d'entre nous continueront, quelques-uns d'entre nous, quand il dit nous, ça peut être nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ça, peut-être, nous, c'est nous les hommes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des hommes un jour qui, peut-être que Teilhard a espéré ça, j'en sais rien, qui effectivement continueront à converger, à évoluer d'une manière convergente, sans qu'il leur arrive rien de fantastique, rien de formidable, rien d'écrasant, rien d'extraordinaire, enfin, d'aussi extraordinaire que la mort. C'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui subiront la métamorphose de la gloire sans avoir à passer par le retour à la poussière. Tu retourneras en poussière. Bien, il y a des gens qui ne retourneront pas en poussière. Mais ce que ça veut dire qu'ils ne mourront pas, je dirais, au sens que vous vous faites, vous, de la mort, je dis si. Et même pire que ça. Parce que, pour ce qui est d'être arrachés à cette vie, nous serons tous arrachés à cette vie. Mais comment? Alors voilà ce que dit Paul. Certains seront, la plupart, enfin à ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était la plupart, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des hommes depuis si longtemps et qu'il y en aurait si longtemps après lui. Bon, d'accord, là il y a eu une erreur d'optique, mais c'est une erreur très accidentelle. Je découvre maintenant seulement le sens extrêmement profond de cette parole de saint Paul. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire que, bon, un certain nombre mourront, c'est-à-dire passeront dans la gloire après être passés par la poussière. Et un certain nombre entreront dans la gloire sans passer par la poussière. Alors, je vous en prie, braquons notre objectif sur ce destin qui nous paraît un petit peu exceptionnel et qui est le destin qui eût été le destin normal de l'homme s'il n'y avait pas eu le péché originel. Et qui est aussi fantastique que de mourir, vous savez. Ça consiste à recevoir une décharge électrique de 3000 volts, en telle sorte que, imaginez une décharge électrique telle que vous soyez volatilisé. Vous ne retourneriez pas en poussière. Il n'y aurait plus de poussière, plus rien du tout. Une espèce de radiodiffusion totale de votre être. Eh bien, c'est ça la gloire, vous savez, vous n'y trompez pas. C'est pour ça que je dis qu'il est normal que ça fasse un peu peur, autant que la mort. Mais c'est pas retourner à la poussière, c'est autre chose. Alors, je reprends, je dis l'intimité avec Dieu, eh bien, est peut-être donnée à une dose telle que ça n'empêche pas de retourner à la poussière. Et puis elle peut être donnée à une dose telle que ça empêche de retourner à la poussière. Ça emporte le morceau. Eh bien, nos premiers parents, alors voilà le discours de Dieu à nos premiers parents après la chute, je t'avais préparé un festin, des invités au banquet, je t'avais préparé un bon petit appareil, un transformateur rapide en... qui va être maintenant rectifié rédemption, pour le passage à la gloire. Je t'avais préparé un bon appareil, glorifiant. Tu as voulu t'en servir toi-même, tu l'as cassé. Voilà, en gros, on peut dire c'est ça. Hein. Je t'avais préparé, t'as trouvé que c'était beau, t'as trouvé que c'était chouette, ça t'a fait saliver, puis t'es monté dedans sans attendre que je te donne la permission et l'ordre. Alors tu l'as cassé. Il est en morceaux. Bon, alors, c'est pas fichu, mais on va s'y prendre autrement. Je vais te rendre mon intimité, oui. Mais pas à ce degré où elle aurait pu te permettre d'entrer dans la gloire. Et parce que cette intimité, tu vas la recevoir médiocritaire, t'amène, comme on dit dans la liturgie, quand on dit qu'il ne faut pas crier trop fort. Hein. N'est-ce pas? Tu vas la recevoir à dose poussiéreuse. Voilà. Médiocre. Alors tu retourneras en poussière. Parce que la gloire n'aura pas le pouvoir de t'emporter. Plus jamais. Je te pardonne. Ça qu'il faut bien comprendre. Je te pardonne au point de te rendre mon intimité, une intimité qui va déjà être l'intimité trinitaire. Dès Abel, dès Noé, dès les premiers justes, dans tous les peuples, il y aura toujours des hommes qui connaîtront l'intimité avec Dieu. Mais ils n'en mourront pas. Ils mourront de mort. Et non pas de gloire. Voilà. Et c'est là où j'insiste tellement sur le paradoxe thérésien. Thérèse qui pensait qu'à mourir d'amour et qui disait, quand on lui demandait de quoi mourrez-vous, je mourrais de mort. Et c'est le paradoxe thérésien, c'est le paradoxe du Christ. Et c'est là que je recule pour vous expliquer le paradoxe du Christ, parce que c'est pas facile à expliquer. Et c'est à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile à vivre. Parce que Dieu dit à l'homme, donc tu retourneras en poussière, parce que le désir de la gloire, le désir de l'amour, le pressentiment de la gloire, le feu du ciel ne sera pas tellement brûlant que tu en meurs de gloire, d'apothéose, de métamorphose, d'explosion. Non. Ça sera un feu languissant, mélancolique. C'est pour ça que j'ai appelé ça le châtiment mélancolique. Aimer Dieu sans pouvoir en mourir, c'est très triste. Il n'y a pas d'autre tristesse. Léon Bois disait, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de ne pas être un saint. Mais la vraie tristesse, celle que Paul appellera la tristesse selon Dieu, justement, au fond c'est ça. Il y a une mauvaise tristesse, dixit Paul, hein, mais il y a une bonne tristesse. Mais qu'est-ce que c'est la bonne tristesse? C'est d'aimer Dieu sans pouvoir en mourir. Eh bien c'est triste. Mais c'est une bonne tristesse. C'est celle que Dieu voudrait bien voir en nous tous. La tristesse de dire à Dieu je vous aime, mais j'en meurs. Et non pas comme Thérèse d'Avila, je meurs de ne pas mourir. Alors ça c'est autre chose. Alors là ça c'est une toute autre affaire. C'est quelqu'un qui est tout à fait au contraire, qui aime Dieu à en mourir, mais qui est retenu sur la terre par un mystère. Alors qui a une drôle de situation, celle de la Sainte Vierge après la résurrection et avant l'Assomption. Alors là, elle ne connaissait pas la tristesse de ne pas aimer Dieu à en mourir. Elle aimait Dieu à en mourir, mais elle mourait de ne pas mourir. Enfin c'est un autre champ, c'est une autre folie celle-là. Bon, mais nous c'est la tristesse d'aimer Dieu sans pouvoir en mourir. Et alors Dieu condamne. C'est ça la condamnation du péché originel, la vraie. Vous me direz, mais non, la condamnation du péché originel, c'est la perte de la vie éternelle, etc. Mais oui, bien sûr, ça c'est la conséquence méritée et juste du péché originel, mais c'est la conséquence que Dieu veut nous éviter. C'est pas du tout ce à quoi nous sommes condamnés de fait. Si nous voulons bien, il nous restitue aussitôt sa nativité, mais, et ici intervient le châtiment, non pas le péché originel lui-même. Avec ses conséquences, qui en effet serait la perte de la vie surnaturelle à tout jamais. Non, mais ça veut dire que si tu le veux, je te rendrai mon intimité, mais avec un châtiment qui est que tu n'en mourras pas. Alors tu seras triste de ne pas en mourir. Jusqu'au jour où viendra mon fils, Jésus-Christ, qui lui, alors, méritera de s'appeler le Sauveur, parce que pour la première fois depuis la chute, un homme... Une femme, sa mère, et un peuple, les chrétiens, pourront de nouveau aimer Dieu à en mourir, comme je vous l'avais proposé au début. Mais ce sera très différent. Oh, ce sera très différent. Ce sera très douloureux. Alors qu'avec vous, ça n'aurait pas été douloureux. Ça aurait été redoutable, mais pas douloureux. Ce sera très douloureux parce que le Christ, comme Thérèse l'Enfant Jésus le dit, le Christ va mourir de gloire. Il retrouve le pouvoir de mourir de gloire. Il est conçu et il est né dans la gloire, dans la vision face à face. Alors évidemment, donc à tout instant, son corps, qui est pourtant encore soumis à la misère, devrait être glorifié. Et ce serait pour le Christ la métamorphose qu'on pourrait appeler mourir de gloire. Pas la Pâque, passer de l'autre côté. Mais, eh bien, je ne peux pas tout dire. pas tout dire ce soir, c'est que ce retour à la poussière, qui est le châtiment mélancolique, s'est trouvé singulièrement aggravé par un autre péché, qui fut le péché de Caïn, et qui fait que ce châtiment, ce retour à la poussière, venant d'une sorte de maladie de langueur, a été transformé en maladie de fureur. Mais c'est ça le péché de Caïn. C'est ça ce qu'a fait Caïn. Il a transformé en fureur le châtiment mélancolique, en fureur infernale. Et alors, depuis le péché de Caïn, très précisément depuis le péché de Caïn, l'enfer règne sur la terre, le prince de ce monde. Alors, il règne sans que Dieu, pour autant, abandonne sa création, sa créature, et qu'elle cesse d'être bonne, et que la grâce cesse de travailler les cœurs, et que le Saint-Esprit cesse de parler. Oh, mais oui, oh, mais oui, oh, mais oui. Mais il règne surtout, en tout cas, sur la mort. L'Épître aux Hébreux dit qu'il a l'empire, la puissance de la mort. Il a la puissance de la mort, c'est-à-dire que ce retour à la poussière qui ne devrait être que mélancolique a une espèce de petite saveur infernale due à tous les Caïns de la terre depuis qu'il y a des Caïns. Et c'est ce qui recoupe un peu l'histoire du message de Paul VI, à savoir que Paul VI, au fond, espère qu'il va y avoir un moment plus ou moins long, plus ou moins court, mais un moment de printemps où il n'y aura plus de Caïn, ou presque plus, enfin, tout au moins pas parmi les puissants de ce monde. Ce serait ça. On reviendrait au châtiment mélancolique. Vous comprenez? Bon, mais qu'est-ce que ça vient faire avec Jésus-Christ? Ça vient faire avec Jésus-Christ que, pour des raisons que je ne vous dirai sûrement pas ce soir, le Christ, et par conséquent Dieu, a eu la folie de vouloir que son Fils connaisse l'enfer. Finalement, je ne trouve pas d'autres mots, vous comprenez? Il a voulu connaître l'enfer. Pour en triompher, mais alors pour en triompher à sa sauce et à sa manière, qui consiste au fond à engloutir l'enfer dans sa joie, à se laisser, à dire à l'enfer, vas-y, tue-moi, c'est ça, vas-y, je me laisserai faire jusqu'au bout, comme Abel, comme tous les justes. Et plus que encore, je ne me défendrai pas. Alors ça, c'est une folie rigoureuse, c'est exactement ça que Paul appelle la folie de la croix. Ça ne servait rigoureusement à rien, je dis pas même à nous sauver. J'y insiste, et ça paraît alors un drôle de paradoxe, j'ai l'air d'un hérétique, hein, vous préparez les bûchers. Or, c'est la stricte doctrine traditionnelle la plus thomiste que j'ai appris depuis toujours, à savoir que le Christ n'avait pas besoin de monter sur la croix pour nous sauver qu'avec un sourire éprouvé. Alors, me dites pas que c'était nécessaire pour nous sauver, c'était pas nécessaire du tout. C'est pour rien. C'est pour la folie, je dirais, c'est pour le plaisir d'entrer en intimité avec l'enfer par la main des hommes que le Christ a voulu cette folie. Et c'est pour ça qu'il nous restitue le pouvoir de mourir de gloire, ouais, mais dans des conditions bien extraordinaires où cette mort de gloire doit engloutir la mort dans l'aiguillon et le péché et la mort dans l'aiguillon et Satan selon un équilibre qui est toujours plus ou moins celui du Christ, et c'est ce que Paul lui-même appelle « achever dans son corps ce qui manque à la passion du Christ ». Voilà le schéma général. Et voilà en quel sens. Eh bien évidemment, nous sommes des êtres extraordinaires, parce que nous avons retrouvé le pouvoir de mourir de gloire, et la preuve, c'est que certains d'entre nous ne retourneront pas en poussière. Alors vous me direz peut-être, ils sont donc dispensés de mourir de mort, et de mourir de la main de l'enfer. C'est une autre histoire, je ne peux pas tout vous dire en une soirée. Ce qui est sûr, c'est que nous aussi, nous sommes invités, nous ne connaîtrons les splendeurs de la gloire et de la vie chrétienne que si nous acceptons la persécution de l'enfer. Ça, alors, c'est une loi absolue. Qu'on en meure ou qu'on n'en meure pas, la Sainte Vierge en est morte et en est pas morte à la fois au pied de la croix, mais elle a connu, par le cœur de son Fils, la persécution de l'enfer. Et elle a connu la gloire. Mais justement, on ne peut supporter la persécution de l'enfer à la manière dont le Christ l'a supporté que si on est envahi et englouti par la gloire et à un degré où ça brûle. Je regrette, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose et je vous demande pardon de n'avoir pas commencé le texte ce soir. Je savais bien à quoi je m'exposais. Je vais faire toutes sortes d'efforts et d'exercices pour, comme le musicien, vous savez, qui fait une... Comment que ça s'appelle? Dans un concerto. Il y a le moment de la cadence, hein, où il part dans toutes sortes de variations, et c'est, je crois, le vieux maître d'orchestre Haydn, je crois, oui, qui, devant un soliste qui avait fait des variations pendant un quart d'heure, et qui finalement retrouve le moyen de retomber sur ses pieds sur l'accord qui permet à l'orchestre de repartir, lui dit « Ah, vous revoilà, monsieur Intel, nous sommes heureux de vous retrouver. Eh bien, je vais essayer de retrouver Saint-Paul un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de ne pas vous en dire trop bien davantage. Je pense que la prochaine fois, nous reprendrons au moins la lecture de cette note assortie assortie d'explications que j'essaierai de réduire à leur minimum, tout en m'excusant d'avance si ce minimum est excessif. »
Remarque finale, le minimum d'explications fut en effet tellement excessif qu'il est devenu un chapitre nouveau, un retour à l'étude de la Genèse à propos de la condition de nos premiers parents, dont il était déjà question dans cette dernière conférence.